comme les autres. Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bon mercredi 14 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, à midi, on va revenir sur ce 9e féminicide qu'on a connu. Faut pas l'oublier, Caroline Labonté, 40 ans, qui a été tuée, qui aurait été tuée par son conjoint. Ça s'est passé le 18 mars dernier. On va revenir là-dessus parce qu'on peut pas. Là, on a été bien outrés. Ça a été le scandale. Sauf qu'on n'entend plus parler. On peut pas faire ça. Puis à 11h, on va aussi revenir sur la décision d'Air Canada de ne pas fournir des liens avec le reste du Québec pour les régions du Québec. Là, ce sont les transporteurs régionaux qui prennent la relève, mais c'est Air Canada qui a l'argent. Faut pas oublier Air Transat, qu'il y a rien de rien pantoute là-dedans. On parle de presque 6 milliards de dollars. On a avec nous M. Amar est là.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Stéphane Amar, qui est correspondant pour la chaîne Arte en Israël. Bonjour. Alors nous, on s'intéressait, nous au Québec, on s'intéressait à ce qui se passe en Israël parce qu'on comprend qu'il y a près de 60% de la population qui est vaccinée. Alors, quelle est la recette du succès chez vous?
Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a une véritable prise de risque, c'est-à-dire que dès le départ, le gouvernement israélien a misé sur le vaccin. Avant même que la FDA donne son aval au vaccin Pfizer, les commandes avaient déjà été faites. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a négocié en direct avec le président de Pfizer, Robert Bourla. Il l'a appelé au téléphone une trentaine de fois. Bourla a récemment témoigné à la télévision israélienne en expliquant que Netanyahou l'appelait même à 3h du matin pour lui poser des questions. Et Israël a mis dans la balance deux choses. D'abord, Israël a accepté de payer deux fois le prix pour ce vaccin, soit 10 euros la dose au lieu de 100 dans les autres pays. Et Israël a accepté de transmettre à Pfizer toutes ses bases de données, tous les renseignements médicaux sur les effets du vaccin, sur des milliers et des milliers de personnes qui ont été vaccinées tous les jours en Israël. Et ça a été un argument décisif pour Pfizer, qui a pu bénéficier d'une zone test à l'échelle d'un pays de 9 millions d'habitants en temps réel. Tout est informatisé en Israël, tout va très vite.
Ouais.
Israël a réussi à vacciner 250 000 personnes par jour au plus haut de la campagne de vaccination.
Wow.
C'est considérable.
Ouais.
Et c'est ce qui a fait que Pfizer a livré autant de vaccins aussi rapidement.
Et ces données, Stéphane Amar, là, ça a servi à Pfizer pour contrôler les effets du vaccin. Là. Ce n'est pas seulement une remise à une compagnie privée des données personnelles des citoyens israéliens. Là. Ça a servi à la science.
Oui, absolument. Il faut bien préciser que les données qui ont été transmises sont des données anonymes,
ouais,
qui portent sur des groupes de personnes vaccinées. Ce n'est pas des données individuelles. Mais effectivement, c'est extrêmement précieux pour un laboratoire comme Pfizer de pouvoir savoir au jour le jour quels étaient les effets secondaires, quels étaient aussi les effets bénéfiques, si les gens guérissaient, ce qui a été le cas. Et ça a été un excellent test pour la compagnie pharmaceutique.
On dit qu'en Israël, il y a eu environ 6300 décès pour une population de 9 millions d'habitants. C'est à peu près la population du Québec. Nous, on est rendu à quelque chose de près de 11 000 décès. Vous êtes rallié très vite, mais il y a des contestataires, des récalcitrants, des conspirationnistes en Israël. Comment est-ce que le gouvernement israélien a réussi à contrôler ces gens qui font bande à part dans la population?
Alors, c'est effectivement une question extrêmement importante. Dès le départ, Israël a mené des campagnes extrêmement agressives pour convaincre les gens d'accepter le vaccin. Dans les semaines qui ont précédé l'ouverture de la campagne de vaccination, il y a eu des centaines et des centaines de clips publicitaires financés par l'État qui ont été diffusés sur Internet, sur les réseaux sociaux et aussi à la télévision. Et dans ces clips, on voyait des sommités de la médecine israélienne, des directeurs d'hôpitaux, des grands professeurs qui disaient à la population « il n'y a aucun risque pour vous faire vacciner, voilà comment fonctionne l'ARN messager, il ne comporte aucun risque pour la santé, il ne modifiera pas votre ADN ». Il y a eu également parallèlement une lutte sur les réseaux sociaux même, avec des personnes engagées pour répondre aux argumentaires des anti-vaccins, pour les contredire, pour éventuellement demander leur éviction de YouTube ou de Facebook s'ils dépassaient la limite, s'ils tombaient dans le fake news. Donc il y a eu effectivement beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de, on pourrait dire, la propagande pro-vaccin.
Il y a eu trois confinements en Israël, Stéphane Hamar.
Oui, la période du corona a été très très difficile, hein, aussi difficile qu'ailleurs. Il y a eu trois confinements très durs, il y a eu énormément de mesures de restrictions, les commerces ont été fermés pendant quasiment un an. Alors où je vous parle, les touristes ne sont toujours pas revenus en Israël, alors que le tourisme est un élément très important de l'économie israélienne. L'aéroport est toujours fermé aux étrangers, donc ça a été une période extrêmement difficile et ça explique aussi pourquoi les Israéliens étaient très demandeurs d'un vaccin et se sont précipités littéralement vers les centres de vaccination.
On me dit que y a, dans certains groupes d'âge, Stéphane Hamar, il y aurait 90% des gens qui ont été vaccinés. Dans quel groupe d'âge?
Alors, dans les personnes de plus de 70 ans, on en est à, je crois, 93 ou 94% de personnes vaccinées. Donc, on peut dire quasiment tout le monde. C'est un peu moins, évidemment, chez les plus de 50 ans, mais c'est tout de même très important. Et sur l'ensemble de la population, on en est, à l'heure où je vous parle, à plus de 60% de premiers vaccins. Si on exclut les enfants, et vraisemblablement, il y a encore un débat en Israël, et il est probable que la vaccination des enfants ne soit pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Et est-ce que la vie reprend tranquillement? Ça ressemble à quoi? Parce qu'on est, tous anxieux, on est tous exaspérés de cette foutue pandémie. Chez vous, la vie reprend un peu?
Je dirais pas qu'elle reprend un peu, je dirais qu'elle reprend beaucoup. Oh. Il y a même une frénésie d'une certaine manière de sortie, parce que après avoir été frustré pendant un an de restaurants, de bars, de lieux publics, de salles de sport, etc., les Israéliens sortent massivement. Les restaurants sont complets plusieurs semaines à l'avance. Il y a beaucoup de monde dans les bars, il y a beaucoup de monde sur les plages, il y a évidemment beaucoup de monde dans les rues. Et heureusement, on oublie d'une certaine manière assez vite qu'était le corona, ce qu'était la vie sous le corona. On reprend très vite ses habitudes d'avant, et finalement, tout ça paraît comme un mauvais rêve pour beaucoup de gens. Évidemment, il y a des gens, malheureusement, qui resteront marqués toute leur vie parce qu'ils ont perdu des proches ou parce qu'ils ont énormément souffert économiquement. Mais globalement, on va dire que la société se relève, fait preuve de résilience, et l'économie est complètement repartie, on peut le dire aujourd'hui, à part peut-être, comme vous le disiez, le secteur du tourisme, qui devrait repartir dans les prochaines semaines.
Tout ça avec ou sans masque?
Alors le masque, à partir de dimanche, ne sera plus obligatoire dehors, mais d'ores et déjà, si vous vous promenez dans les rues de Tel Aviv, vous verrez que la plupart des gens ne portent plus le masque, en tout cas à l'extérieur, et qu'ils le mettent pour rentrer simplement dans les magasins ou dans les lieux publics.
Ouais. Et cette question de passeport, vaccin, est-ce que c'est réglé en Israël?
Oui, alors le passeport vaccinal donc a été mis en place tout de suite dès la fin du dernier confinement. Il est nécessaire pour entrer donc dans les restaurants, pour entrer dans les salles de sport, pour entrer dans les lieux de culture, les théâtres, etc. C'est une application en fait qu'on cherche sur son téléphone. On peut aussi sortir sur une feuille imprimée. Les Israéliens ont relativement bien accepté la mesure dans leur ensemble. Il y a quelques contestataires qui ont d'ailleurs porté des recours devant la Cour suprême et qui restent très minoritaires. La plupart des Israéliens sont très satisfaits de cette mesure parce qu'elle permet non seulement de ne plus accéder à ces lieux publics, mais également de savoir que tous les gens qui sont autour de vous sont des gens vaccinés qui ont donc très peu de chances de vous transmettre le virus.
Diriez-vous que ça a été un incitatif?
Pardon?
Est-ce que vous diriez que le... Oui.
Oui, bien sûr, ça fait pression d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Donc ça, c'est des témoignages que j'ai recueillis à plusieurs reprises. Les gens vous disent, moi, je ne voulais pas forcément me faire vacciner, mais quand j'ai vu que si je n'étais pas vacciné, je ne pouvais pas accéder au concert, je ne pouvais pas accéder au restaurant, évidemment, j'étais bien vacciné. Donc, bien sûr, c'est d'ailleurs assez assumé par le gouvernement. Le gouvernement reconnaît que le passeport vert a aussi, et peut-être surtout, pour fonction d'inciter les gens à se faire vacciner.
En tout cas, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane Hamar, qui est correspondant pour la chaîne Arte en Israël. Merci, Stéphane. À la prochaine.
Merci, au revoir. À bientôt.